Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui la Grande Loge de France. Bonjour à toutes et à tous, au micro Marc-Henri, Grande Loge de France, à mes côtés Jean-Michel Dardoux. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour à tous.
Joyeux retour parmi nous.
Merci.
Alors comme nous sommes tout près des vacances estivales, nous avons choisi aujourd'hui tous les deux de vous emmener à l'étranger. Et nous avons donc invité deux frères de la Grande Loge de France qui appartiennent à des loges de la Grande Loge de France, mais qui ne sont pas dans l'Hexagone, nous allons dire. Alors bonjour Ludovic Lamazère.
Bonjour.
Alors Ludovic nous vient du White Swan. Comme son nom l'indique, c'est une loge qui est en terre britannique, à Londres très précisément. Et puis Eric Persigne.
C'est cela même, oui, Persigne.
Alors là, nous sommes en Espagne, cette fois-ci à Barcelone. Et donc, nous allons évoquer avec vous les histoires de ces deux loges, déjà, qui sont ailleurs, ailleurs, bien que dans la maison. On va peut-être commencer par White Swan, que j'ai juste en face de moi. Pourquoi White Swan? Ça n'a aucun rapport avec le ballet du même nom.
Alors, absolument pas. L'idée d'appeler la loge The White Swan, c'était clairement pour faire... hommage aux frères et également aux Français et francophones qui ont décidé de rejoindre les troupes du général de Gaulle, notamment en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui se réunissaient dans le pub The White Swan. Et ce pub-là est le pub où Maurice Druon, le frère Druon et Kessel ont rédigé le Chant des Partisans. Donc c'est un pub où Pierre Brossolette, notamment le frère Pierre Brossolette, et Pierre Dac se réunissaient. Voilà.
Donc on a voulu... c'est souché sur une histoire de la résistance.
De la résistance et puis de la tradition des loges en Angleterre,
et des loges en Angleterre.
Qui souvent prennent le nom de pub.
De pub où elles se réunissaient, voilà. Au XVIIIe siècle.
Nous, on s'appelle The White Swan, mais on est une loge francophone. Et on s'adresse à la communauté francophone qui est assez large en Angleterre, hein, 500 000 francophones. Européens, africains, nord-américains, mais c'est pas parce qu'on s'appelle The White Swan qu'on travaille en anglais.
On ne reviendra pas sur toute l'histoire de la maçonnerie dans les îles britanniques, parce qu'on a souvent évoqué à ce micro, on la connaît un petit peu, entre les Écossais, les Irlandais, les Anglais, tout cela a donné la maçonnerie d'aujourd'hui, spéculative, avec des rites différents. Oui, Jean-Michel.
Ah, c'est quand même intéressant, ce surlendemain du 18 juin, d'évoquer la mémoire de nos grands résistants qui ont fait l'histoire de la résistance française à Londres.
Oui.
Et je pense que c'était bien de les citer.
Voilà. Tout à fait. Et puis alors, en Espagne, c'est un peu la même, enfin pas la même histoire, mais il y a aussi de la résistance qui sourd.
Oui, c'est parce que l'Espagne a une histoire beaucoup moins libre que les pays la France et l'Angleterre, entre autres, avec malheureusement une époque très sombre du franquisme, avec une persécution énorme de la maçonnerie, et même, dans les termes même de Franco, une éradication complète de la maçonnerie en 62, et une reprise après le départ de Franco, avec le retour des maçons républicains en Espagne, et une volonté, à partir des années 90, d'un groupe de maçons qui ne trouvaient plus la totale réponse dans la proposition maçonnique espagnole, et pour ça la création du centre de l'Union écossaise, qui nous permet de rappeler le rite qui nous le pratique, et le rite écossais ancien accepté, et un rattachement à la Grande Loge de France pour défendre ces valeurs de tolérance et de laïcité tolérante, qui n'est pas exactement le cas des maçons républicains d'Espagne.
Oui, Jean-Michel.
Ah oui, donc ça m'interpelle parce que j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait le même objectif que nos frères de Londres, qui sont liés plutôt à une présence francophone à Londres, comme nous pouvons en connaître aussi à Montréal ou en Israël, où nous avons des loges qui sont liées à une présence francophone. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt lié à l'histoire de la Catalogne et plutôt tourné vers des Espagnols plutôt que des Français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si vous avez des frères espagnols, français dans cette loge et quels sont les objectifs de la loge?
Nous, il est très clair que la majorité des frères de la loge sont espagnols. Les travaux sont tenus en espagnol, en langue espagnole, éventuellement en catalan, si on s'assure, question de politesse et de respect des autres, que tout le monde comprend et parle catalan, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de visiteurs étrangers qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent de France. Donc je pense qu'il est nécessaire de respecter la compréhension du rituel, donc on parle en espagnol. Et il est vrai que notre objectif est beaucoup plus de donner une réponse aux Espagnols sur une maçonnerie différente, Et tolérante au niveau politique, au niveau
Quand
religieux.
Vous dites différente, vous voulez dire moins politique, moins religieuse,
moins politique,
plus ouverte.
Voilà. Moins politique, c'est sûr. Beaucoup moins affairiste, si on peut parler de ce terme-là.
Pas vraiment la vocation de la maçonnerie.
Voilà, c'est pas
Même
du tout si la vocation.
Les journaux nous la prêtent.
Voilà, c'est pas du tout notre vocation. Une maçonnerie beaucoup plus spirituelle, acceptant les différences, acceptant tout type de religion, que ce soit catholique, musulmane, juive.
Ou sans
religion, mais en aucun cas athée, puisque nous, la maçonnerie est quand même une forme de pratiquer une spiritualité, donc avec une croyance.
Là, vous ouvrez une grande question. Peut-il y avoir une spiritualité sans Dieu ? C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on pourrait y aller.
On pourrait y aller, oui.
En tout cas, Marc, c'est aussi la raison pour laquelle nous avons organisé récemment à Barcelone un colloque sur le thème des dialogues entre les différentes religions pour retrouver un petit peu l'esprit de Cordoue. Vous savez qu'à cette époque, il y avait une grande tolérance dans les pratiques religieuses. Et nous avons pensé que c'était intéressant d'organiser ce colloque en plus de celui de Paris, où nous avons invité différents représentants des religions, donc des Espagnols et aussi des Français,
voilà,
qui ont été échangés sur le thème du dialogue.
Voilà, et ce colloque a permis permet, entre guillemets, d'enfoncer le clou sur notre différence et notre acceptation de la différence.
De la différence, justement.
Et c'est là-dessus où on veut se démarquer par rapport à la maçonnerie classique et traditionnelle. Si on peut parler de tradition avec un historique de moins de 50 ans, je pense que tradition, c'est peut-être un mot un peu fort, mais surtout marquer la différence par rapport à une maçonnerie républicaine et anticléricale. Je préfère dire anticléricale que laïque, parce que laïque, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça veut dire acceptation de la religion, mais ne pas en faire une priorité.
Et alors en Angleterre, c'est pas tout à fait la même situation pour vous ?
Alors en Angleterre, on a dans notre loge God est mal traduit parfois en langage français, et par God, on pense que ça veut dire Dieu au sens théiste du terme. Donc les Anglais, en fait, si on leur disait qu'il faut croire en un Dieu unique et révélé, ça leur paraîtrait assez bizarre, et pour entrer dans une loge. Donc nous, dans notre loge, on a aussi bien des gens qui sont croyants que pas croyants, des gens de tous horizons, mais c'est surtout sur ce sujet de francophonie qu'on se réunit. Je dirais que la spiritualité, la recherche spirituelle et symboliste vient peut-être dans un deuxième temps, contrairement à ce que j'ai pu vivre moi dans la loge sur le territoire, dans l'Hexagone, là où j'ai été initié. Le fond du sujet, quand un profane vient nous voir à Londres, c'est parce que au bout d'une dizaine d'années à faire du métro boulot dodo à Londres, il y a un besoin dans cette population qui a souvent eu à toucher dans le cadre de ses études un peu de philosophie, soit au niveau du bac, soit plus tard. Il y a ce manque en fait de réflexion dans une langue dans laquelle ils peuvent s'exprimer, qui est le français. Alors j'insiste vraiment sur francophone, parce que on a peut-être que la moitié de la loge qui est française. On a des Belges, on a des Suisses, on a beaucoup de frères qui viennent d'Afrique. Tout le monde se réunit autour de ce besoin de réfléchir, de se réunir en fraternité dans un espace qui est loin du bruit de la cité, de l'agressivité de la cité, particulièrement depuis le début de la crise. On a vraiment une forte demande depuis juillet 2007 de gens qui ont besoin de trouver de l'air,
un lieu de réflexion,
dans une langue qu'ils maîtrisent, sur des sujets autres que le quotidien.
Vu ce que vous nous avez dit de l'historique même, du choix du nom, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas encore là un lien entre ces pères fondateurs, on va dire, même s'ils sont symboliques pour vous, autour du White Swan, et puis ce thème qui est quand même là aussi quelque part en résonance avec ce qu'ils ont, leur action.
Les thèmes, comme vous le traitez régulièrement sur cette émission que j'écoute avec plaisir en podcast.
Ça, c'est la magie France Culture.
La magie de France Culture. Les thèmes que vous abordez montrent très clairement qu'en Grande Loge de France, on peut aborder des thématiques de la cité, de l'engagement de la cité, par une méthode de proche en proche. Donc, moi, par le sujet d'engagement, je voulais effectivement rappeler qu'il y a un engagement de fraternité, il y a un engagement du frère dans la loge et du maçon par rapport à sa loge, mais il y a également un engagement en dehors et à titre personnel, hein, pas forcément à titre de l'exemple de l'obédience. Et pour moi, des frères comme Pierre Dac, Pierre Brossolette qui, pour rappel, a suivi son engagement jusqu'au bout, puisqu'il il s'est défenestré au moment où il allait lâcher son réseau. Le nom de cette loge, c'est clairement un hommage à ces gens-là. Et le thème de l'année, qui est un thème sur l'engagement, qui est un engagement personnel, me paraissait important, en tant que président de l'atelier, ça me paraissait important de mettre ce thème en avant.
Et à Barcelone, quels sont les sujets, si on peut le dévoiler?
Oui, tout à fait, on peut le dévoiler, puisque on a travaillé cette année sur, justement, tradition méditerranée, religieuse et maçonnique. Et justement, ça nous a permis, pour quelques frères de l'atelier, qui étaient particulièrement catholiques, juifs et musulmans, de présenter à l'atelier l'histoire et la tradition religieuse en Méditerranée. Et on s'est rendu compte que nous, tout notre travail sur la tradition et notre rite était en réalité très proche de toute cette tradition et tout cet engagement sur le respect de la tradition, sur le respect de notre histoire, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et le point final de tout ce travail annuel qui a été fait par la loge de Barcelone, mais aussi par nos loges amies de Perpignan, ou chacune des trois loges de Perpignan, puisque c'est la Catalogne aussi.
Bonjour Perpignan.
Voilà, on travaillait sur le même thème, avec le point final qui était le colloque du début mai, avec ce colloque qui regroupait pour le matin les représentants des trois grands mouvements religieux de Méditerranée, et l'après-midi, les obédiences aux différents pays de Méditerranée, France, Espagne, Roumanie, si je me souviens bien, les grandes loges unies d'Europe, pour pouvoir participer et compléter le travail de cette année. Et parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'Espagne, vu la crise économique, est face, après 30 ans de liberté, à une crise de tradition très importante, et que ce soit les mouvements politiques, les mouvements religieux sont aujourd'hui face à un problème de désaffection d'intérêt des personnes, et ils se posent les mêmes questions que nous, que beaucoup de gens, et ils pensent que la maçonnerie et le rattachement à nos rituels et à nos traditions permettra de trouver des solutions pour le futur.
En tout cas, c'est au moins un lieu de rencontre, et c'est déjà pas mal.
Alors, comme vous parlez du futur, comment voyez-vous l'avenir? Allez-vous essayer de créer d'autres loges, ou allez-vous vous agrandir? Qu'est-ce que vous comptez faire?
Bon, en ce qui nous concerne, on a ouvert cet atelier maintenant il y a un peu moins de 10 ans. On est en rythme de croisière, on est maintenant un peu moins d'une quarantaine en loge. C'est une loge qui est suffisamment grande pour pouvoir permettre à chacun de se connaître, pas suffisamment grande pour se séparer en deux. Généralement, les loges se séparent en deux et s'aiment, comme on dit, au bout d'une soixantaine de membres. On a aujourd'hui, nous, besoin aussi de faire connaître notre démarche. Donc le grand maître de la Grande Loge de France est venu pour une conférence publique il y a quelques semaines. Conférence publique qui a été possible grâce au soutien de la région Nord-Picardie, hein, de la Grande Loge de France.
Mais allons-y. Un peu de publicité. Bonjour Nord-Picardie, à Montpellier.
Et puis également de la Grande Loge de France à Paris, bien sûr.
Mais la Grande Loge de France, c'est partout. C'est pas Paris seulement. Bien sûr.
Mais cette conférence publique était d'ailleurs dans un temple de la Grande Loge Unie d'Angleterre qui a été découvert récemment. Après les travaux, ils ont cassé un mur dans un hôtel et ils sont tombés sur un magnifique temple qui avait été perdu, oublié.
Bon, voilà. Il y a un nouveau mythe qui va naître là, du côté de Londres.
À la recherche du temple perdu.
Par exemple, pourquoi pas.
En ce qui concerne l'Espagne, nous avons aussi, je crois, une loge à Madrid qui est une loge francophone.
Oui, qui est une loge de la Grande Loge de France à Madrid. Donc actuellement, nous avons deux loges de la Grande Loge de France, une à Madrid, une à Barcelone. Notre objectif est très clair, on a un attachement très fort à la Grande Loge de France, d'abord en respect du rite qu'elle pratique, c'est-à-dire le rite écossais ancien accepté, et on ne veut pas quitter un cadre reconnu en France, bien évidemment, mais aussi au niveau international par sa rigueur et son respect de ce rite. Et l'objectif, à un certain temps, quel délai, ça je ne pourrais pas le dire, ce serait trop facile, de... Le jour où on aura un certain nombre de frères suffisamment
avancés dans le chemin,
aguerris dans le chemin, de développer, de...
Une obédience espagnole.
Éventuellement une obédience, mais en aucun cas, on voudra, puisqu'on a un historique et un attachement très fort à la Grande Loge de France, emmener la Grande Loge de France dans une démarche qui ne serait pas conforme à l'image de sérieux et de rigueur qu'elle a.
À ce qu'elle pratique. À savoir cet idéal d'ouverture, de tolérance, voilà, de rencontre, de creuset où il se passe des choses au niveau de la réflexion.
Et ça, c'est notre priorité.
C'est notre priorité à tous, là, je crois.
Nous on n'est pas, je pense aujourd'hui, on ne l'a jamais vraiment été, dans une démarche d'essayer de créer une obédience. Bon, en Angleterre, il y a 400 000 francs-maçons de la Grande Loge d'Angleterre. C'est juste...
Pour situer le décor.
C'est
oui,
juste inconcevable de créer une obédience qui soit en opposition avec la Grande Loge d'Angleterre. On n'est pas là pour ça. On est là pour répondre à une communauté francophone qui est au moins aussi grande qu'une grande ville de France.
Et puis un besoin de travailler autrement.
Et un besoin de travailler autrement.
Le rite écossais se démarque assez des autres.
Voilà, nous, on travaille effectivement tous les mois, là où la Grande Loge d'Angleterre se réunit que 4 fois par an. Uniquement sur de la symbolique pure et dure, là où nous on fait des planches, des travaux. Donc on a vraiment une autre méthodologie et on tient à travailler comme ça. Et on réunit d'ailleurs dans ce cadre-là pas mal de frères du continent européen.
Merci Ludovic, merci Eric. Il est déjà temps de nous séparer. Le temps passe trop vite entre nous.
Je rappellerai à nos auditeurs que s'ils souhaitent visiter nos loges de Barcelone et de Londres, ils peuvent les retrouver, l'adresse sur notre site internet gldf.org, à la rubrique « Qui sommes-nous ?», la Grande Loge de France dans le monde, et vous aurez les adresses.
Et ils auront aussi les adresses de tous les autres ateliers qui existent à travers le monde de la Grande Loge. On salue bien sûr tous ces frères.
Nos frères africains.
On va faire le tour, je ne peux pas, j'ai toute la liste devant moi.
C'est une quarantaine de loges.
Voilà. De tous les orients du monde, parce que c'est quand même ça le but de la maçonnerie, c'est qu'elle est universelle.
Et gardons toujours en nous l'esprit de Pierre Brossolette.
Gardons Pierre Brossolette.
Voilà.
Précieusement au cœur. Eh bien, je n'ai plus qu'à remercier Brigitte Mazire pour la réalisation de cette émission et le technicien qui nous a accompagnés. Et vous donner rendez-vous le mois prochain.